Vous êtes à l'écoute de Conversations RH. Dans cette collection de podcasts, vous allez découvrir des éclairages d'experts passionnants qui vous apportent, chers auditeurs, des réponses concrètes aux problématiques liées aux ressources humaines et à la vie de l'entreprise. Alors n'hésitez pas à découvrir les épisodes des différentes saisons de Conversations RH dans lesquelles nous traitons les ressources humaines sous des angles sociétaux, psycho et techno. Comment faire face au brownout de vos équipes? Les recrutements dans le métaverse sont-ils possibles? Quels sont les bons tips pour les candidats et les recruteurs? Ou encore comment améliorer l'attractivité marque employeur? Toutes ces réponses sont dans Conversations RH. Belle écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Conversations RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. Conversations RH, vous le savez maintenant, ce sont des éclairages d'experts qui, à ce micro, nous partagent leur vision de l'évolution des pratiques RH. Conversations RH, c'est un podcast qui vous est proposé par LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement et évaluation d'experts, cadres et dirigeants. Aujourd'hui, nous poursuivons nos échanges sur le sujet des entretiens de recrutement. Dans un contexte de tension de marché de l'emploi, de bouleversement des pratiques de recrutement et de concentration des offres sur des profils parfois pénuriques. Alors, est-ce que la distanciation sociale a changé durablement les pratiques de recrutement? Le rapport de force entre le recruteur et le recruté est-il inversé? Quels sont les tips concrets pour les candidats et pour les recruteurs afin de faire le bon choix? Réponse dans cet épisode au cours duquel j'ai le plaisir de recevoir Muse Mortagne. Bonjour Muse.
Bonjour.
Muse, tu es consultante au sein du bureau de Paris de LHH Recruitment Solutions depuis près de 3 ans.
C'est ça.
Avec une spécialité sur les métiers commerciaux et marketing.
Tout à fait.
Parfait. Également à ce micro, Anthony Maldera. Bonjour Anthony.
Bonjour.
Anthony, tu es directeur exécutif région chez LHH Recruitment Solutions. Alors, tu chapeautes l'équipe, mais tu as aussi une particularité, celle d'être un peu plus expert sur les postes financiers et RH. C'est bien ça ?
C'est exactement ça.
On a donc autour de ce micro des professionnels qui couvrent une large partie des types de recrutement que vous pourrez avoir besoin de vos entreprises. Je pense qu'on est prêt. Allez, on peut y aller. C'est parti pour Conversations RH, 4e épisode. Anthony, tu es chez LHH Recruitment Solutions depuis près de 9 ans. C'est la raison pour laquelle j'ai envie de te poser la première question. Une question histoire du recrutement chez LHH Recruitment Solutions. En tout cas, toi, ta vision d'évolution des candidats et des recruteurs, quelle est-elle?
Je dirais qu'il y en a deux majeures. La première, ça va être la dimension peut-être attentiste des candidats. C'est-à-dire qu'ils font beaucoup moins l'effort de répondre à des annonces.
On attend qu'on vienne vers eux, c'est ça?
C'est exactement ça. Beaucoup aujourd'hui vont mettre leur profil sur LinkedIn, par exemple, et penser que parce qu'ils sont sur LinkedIn, ils vont être contactés. Même des grandes plateformes type APEC ou CV ADN, Cadre Emploi, etc., reçoivent moins de CV. Donc, le changement pour nous, c'est qu'on doit faire de plus en plus d'approches directes, de chasse de tête.
Ouais.
Donc, ça, c'est une évolution qui, effectivement, s'est traduite au cours des dernières années. Ce n'est pas très récent. La deuxième, qui est beaucoup plus récente, on va dire que ça va être les attentes des candidats en tant que tels. Pendant longtemps, l'attente principale a vraiment été fixée sur le salaire, la rémunération annuelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de questions qui vont tourner autour de la QVT, de l'équilibre vie pro, vie perso, de l'agilité, de l'adaptabilité, du temps de travail, etc. etc. Donc, je dirais que c'est les deux points majeurs que j'ai pu effectivement voir au cours des dernières années.
Mais alors, les candidats, ils attendent que ça tombe. Pour autant, est-ce qu'ils ont raison? Est-ce qu'il n'y a pas quand même une prime à l'engagement, une prime à la spontanéité, à vraiment à faire des choses pour être recruté plus qu'un autre?
Ça va dépendre du contexte dans lequel ils sont. C'est-à-dire que s'ils sont bien dans leur entreprise, pourquoi pas être attentiste? S'ils ont une vraie démarche avec une volonté peut-être de passer à autre chose, c'est mieux effectivement d'activer tous les leviers possibles pour changer d'entreprise.
Moi, j'en vois de plus en plus sur LinkedIn. C'est plus des CV, c'est des films, c'est des vidéos, c'est des infographies. En tout cas, les jeunes candidats regorgent, je trouve, d'inventivité. Alors, peut-être pas tous, mais en tout cas, il y a de plus en plus de créativité dans la présentation de leur profil.
C'est le cas, mais c'est aussi une démarche qui est initiée par LinkedIn. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils nous incitent beaucoup à remplir les profils à 100%, et pour qu'ils soient remplis à 100%, il faut qu'il y ait toutes les choses que tu viens d'évoquer.
D'accord.
Donc voilà, ce n'est pas tout le temps spontané de la part des candidats.
Muse, est-ce que toi, tu es intéressé un peu plus par un candidat ou une candidate qui ferait une vidéo sympa, qui ferait un podcast, qui ferait une super infographie?
On le voit un peu moins peut-être sur nos profils à nous. On adresse plutôt les profils 4 supérieurs, 4 dirigeants. C'est peut-être des choses qui sont plus courantes sur des profils plus juniors. Maintenant, sur les profils LinkedIn, on en est fait attentif sur tout ce qui est mise en forme. Voilà, parce que c'est déjà la première vitrine finalement du candidat, évidemment.
Est-ce que le rapport de force, je posais la question en introduction, s'est inversé entre les recruteurs et les candidats? Et tu fais bien de repréciser, Muse, que les candidats que vous adressez sont plutôt des candidats plutôt haut dans l'entreprise, qui sont destinés à des postes de direction, direction générale. Est-ce que le rapport de force est inversé?
Peut-être sur certaines populations, oui, certains métiers sont beaucoup plus pénuriques que d'autres. Sur ces métiers-là, en effet, il y a un rapport de force qui est peut-être un peu remanié. Maintenant, le décisionnaire reste tout de même toujours le même et le recruteur. Mais en effet, sur certains métiers, on peut penser à l'IT notamment. Voilà, je pense qu'en effet, il y a ce rapport de force qui est un peu retravaillé.
C'est le cas dans tous les types de postes, Anthony, ce que décrit Muse sur les rapports de force entre candidats et recruteurs?
Non, absolument pas. À la cité l'IT, on peut citer aussi tout ce qui est recherche et développement, des postes de commerciaux. Voilà, ça, c'est des métiers où aujourd'hui, il y a une grosse pénurie. Après, on a certains métiers type la communication, certaines fonctions RH sur des postes corporate où là, il y a beaucoup plus de candidats. Et après, il y a aussi des secteurs d'activité qui attirent. Il y a aussi des entreprises de renom qui attirent et qui ont quand même un peu moins de mal que les autres.
Ouais.
Donc, je dirais que le rapport de force, en fait, il s'est équilibré.
Il s'est équilibré.
Je ne trouve pas qu'il se soit inversé, mais il s'est effectivement équilibré.
Ouais.
Même si aujourd'hui, on a quand même tendance à être sur ce qu'on appelle un marché de candidats.
Oui, c'est-à-dire
C'est-à-dire que les entreprises doivent faire preuve d'inventivité pour les attirer, de plus de moyens en amont sur la partie sourcing, pour pouvoir, je dirais, avoir peut-être le choix entre les candidats. Mais encore une fois, ça dépend beaucoup des métiers, des localisations. Donc, il ne faut pas généraliser. En fait.
Et c'est vrai que le pendant du côté des entreprises est également vrai. On parlait tout à l'heure des candidats qui, sur certains postes juniors, en tout cas middle management, font beaucoup d'efforts pour présenter leur CV. Il y a aussi des entreprises qui font beaucoup d'efforts pour présenter leur entreprise. J'ai en tête, alors ce n'est pas le cas pour des postes de direction générale, mais j'ai en tête McDonald's qui fait des pubs à la télé à des heures de grande écoute pour recruter des talents. Donc, effectivement, tout le monde fait beaucoup d'efforts en ce moment pour recruter ou pour être recruté.
Il n'y a pas le choix. Le marché est tendu, donc il n'y a pas le choix. Tout le monde met tous ses plus beaux atouts en avant.
On va parler des tips envers les candidats et les recruteurs. Si vous êtes d'accord, vous allez nous livrer vos outils, vos clés, vos secrets. OK pour vous?
Banco.
Allez, c'est parti. On va parler dans un premier temps des tips pour les candidats. Et on va se donner des tips, des conseils concrets aux candidats. Comment bien se vendre? Tiens, c'est la première question. Comment faire bonne première impression, y compris dans un contexte de distanciation sociale qui n'est pas forcément simple. Avec les masques, on voit que la moitié de son visage.
Alors, on voit que la moitié de son visage, certes, et on voit aussi le reste du corps. C'est important d'arriver, je dirais, avec la bonne posture, avec la bonne attitude. Et sur cette deuxième moitié de visage, finalement, on voit les yeux et on peut dire aussi beaucoup de choses avec les yeux. On est obligé peut-être de mettre un peu plus d'intensité dans ce qu'on dit, comment on le dit, pour pouvoir aussi faire passer ce qu'on peut faire passer plus facilement avec un sourire, très clairement.
Il faut le marquer un peu plus avec les yeux. Il faut essayer de faire un petit effort pour... D'accord.
Évidemment, oui. Même dans sa posture physique, avec ses mains, pour pouvoir vraiment créer une espèce de contact, évidemment, qui est plus facile de créer quand il n'y a pas cette barrière-là.
Ouais.
Et évidemment, ensuite, c'est d'arriver préparé, mais là, c'est même en dehors de ce contexte-là, d'arriver préparé et de savoir à qui on va s'adresser pour pouvoir se mettre, je dirais, en quelque sorte à niveau de la personne qui est en face de nous.
Ouais. Comment bien se vendre, Anthony?
Je pense que pour bien se vendre, ça commence dès l'amont de l'entretien. Donc, il y a la préparation par rapport à l'entreprise qui nous reçoit, l'interlocuteur qui va nous recevoir. Également, peut-être s'entraîner. On a des candidats qui sont pas habitués à passer des entretiens de recrutement. Avoir des...
C'est par des vidéos, avec des amis qui nous font passer l'entretien.
C'est exactement ça. Un petit face-à-face avec son conjoint, sa conjointe, des amis, se filmer. Alors, attention, l'idée, c'est pas d'y passer des heures et des heures, mais voir un petit peu quels peuvent être les points forts spontanés, peut-être les choses à travailler. Ça, c'est en amont. Après, je dirais, au moment du rendez-vous en tant que tel, la ponctualité, c'est quelque chose qui est important. La chaleur, donc Muse en parlait, le regard, etc., mais avoir ce côté un petit peu chaleureux. Et puis après aussi, la curiosité, l'écoute, tout ça, ce sont des choses importantes qui vont améliorer la qualité potentielle de la candidature.
On parlait tout à l'heure de la distanciation. Est-ce que ça fait évoluer vos pratiques de recrutement? Qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé, c'est qu'on fait beaucoup plus d'entretiens en visioconférence.
Ouais.
Ça, c'est une certitude. Après, sur la méthodologie, non, ça n'a pas changé les choses. C'est-à-dire qu'on a toujours la même structure d'entretien. On va toujours aussi loin. On fait toujours passer les mêmes tests. Ce qui a pu changer parfois, c'est l'attention que va nous accorder un candidat.
Oui.
C'est vrai qu'en face-à-face, je dirais, il n'a pas le choix. Il reste concentré sur son interlocuteur.
Complètement.
Quand il est en visio, il peut être un petit peu distrait. Donc, il faut arriver à appréhender tout ça. Mais je dirais, ça n'a pas fondamentalement changé les choses de mon point de vue.
Ouais. Tu parlais tout à l'heure d'entraînement. On doit s'entraîner. Est-ce que finalement, ça ne peut pas être contre-productif de trop s'entraîner au risque d'avoir l'air un peu trop préparé, un peu trop scolaire, Muse?
C'est pas ma conviction. Je pense que quand on est préparé, on peut ensuite passer le stade d'après en étant un peu plus naturel, une fois qu'on a pu acquérir son discours et être sûr de soi sur ce qu'on va dire et comment on va le dire. Je pense que au contraire, ensuite, si le lien se fait, il peut tout à fait y avoir cette connexion et ce naturel qui revient. Et surtout, la méthode qu'on peut préconiser, qui est la méthode STAR, alors on peut trouver plein de choses sur Internet là-dessus, mais permet, je dirais, en quelque sorte, de mettre du concret, de mettre du vivant, de mettre des exemples pour appuyer justement ce qu'on peut présenter aux recruteurs.
Je vais te demander ce que c'est que la méthode STAR. Tu le sais que je vais te le demander. Tu peux pas me sortir comme ça une méthode sans que je te le demande. Qu'est-ce que c'est?
Alors, STAR, c'est S comme situation, T comme tâche, A comme action et R comme résultat. Ouais. Et c'est finalement mettre en face de chaque qualité professionnelle, finalement, un exemple concret qui permet de l'illustrer. Plutôt que de dire « je suis force de proposition »,
okay. Okay.
C'est à quel moment j'étais force de proposition. La situation, c'était ça. Voilà ce que mes missions, voilà ce que j'ai effectivement mis en place et quels ont été les résultats finalement de mes actions. Et ça, justement, ça permet finalement en plus même de créer du lien. Ah, c'était ça la situation. On vient vraiment sur du concret et on peut capter l'attention de son interlocuteur.
Du coup, si à chacune de tes questions, je te réponds avec une méthode STAR, situation, tâche, action, résultat, tu penses que ce n'est pas contre-productif et au contraire, ça permet vraiment d'objectiver un propos, rentrer dans le détail de celui-là et te donner tous les éléments pour que toi, en tant que recruteuse, tu puisses rebondir et approfondir le cas concret.
Oui, parce que l'entretien, il n'est pas que là-dessus. On a des moments avant, on a d'accord. Des moments plutôt en fin où on peut avoir peut-être un échange un peu plus libre. Pour moi, ça fait partie d'une étape fondamentale pour pouvoir parler de soi au mieux.
Ouais, méthode STAR, donc situation, tâche, action, résultat.
Tout à fait.
Je le redis. Anthony, tu les repères tout de suite, les candidats qui seraient trop entraînés, que toi, tu as le même point de vue que Muse, ça te dérange pas?
Alors que des candidats s'entraînent, non, ça me dérange pas. Et au contraire, je pense que ça amène de la spontanéité pendant l'entretien, que de cette manière, les candidats ne sont pas pris à défaut et que donc, on peut aller plus loin dans l'entretien. Après, les repérer entre ceux qui préparent et ceux qui préparent pas, je dirais plutôt qu'on repère assez facilement ceux qui ont l'habitude de passer des entretiens et ceux qui ont un peu moins l'habitude.
J'ai envie qu'on parle de soft skills. C'est un sujet qui est évoqué de nombreuses reprises dans ce podcast. Hein. Je vous renvoie à l'épisode 1 avec Jérémy Lamry. Je vous renvoie également à l'épisode sur l'Assessment Center où on a parlé des soft skills également, qui était passionnant. Comment valoriser ces soft skills lorsqu'on est face à un recruteur, une recruteuse? Alors, tout à l'heure, on a parlé de la méthode STAR qui est plutôt sur des choses très factuelles. Voilà ce que j'ai fait, voilà le contexte, etc. Mais les soft skills, comment on peut les montrer? Comment on peut les mettre en avant?
Cette méthode-là, elle y est aussi propice.
D'accord.
Parce que, en plus des hard skills, on a eu à mettre en avant ces soft skills dans les situations qu'on va déployer. Et c'est comme ça, en fait, c'est par des exemples concrets qui ont eu lieu dans le passé que le recruteur, demain, va pouvoir se dire, OK, ce qu'il a pu déployer hier, il sera capable de le déployer demain dans mon organisation. Finalement, ce type, cela, pour
ça marche aussi avec les soft skills.
Complètement.
Alors, le sujet du salaire. Alors ça, c'est toujours le sujet. On ne sait pas comment l'aborder, on ne sait pas quand. On attend que ça vienne, parfois ça ne vient pas. Et finalement, on se retrouve à la fin devant un contrat où on découvre le salaire à ce moment-là. Bon, ce n'est pas vraiment la bonne pratique. Comment on l'évoque, ce sujet du salaire, Muse?
Assez simplement. Alors déjà, en tant que cabinet de recrutement, nous, c'est une discussion qu'on initie. Systématiquement, et je dirais quasiment à chaque fois qu'on a le candidat au téléphone, lors du premier contact, évidemment que cette chose-là doit être validée, ouais. Pour pas lui parler d'une opportunité qui serait complètement déconnectée à son niveau de salaire actuel ou même à ses prétentions. Et ensuite, c'est quelque chose qui est suivi. C'est des choses qui sont effectivement partagées avec le candidat, évidemment avec le client. S'agissant des tips, c'est évidemment, avant de donner une information, de la vérifier, d'être capable de parler de son salaire fixe, de son salaire variable, de l'ensemble du paquet, s'il y a de l'intéressement, de la participation, un véhicule de fonction, des avantages divers, il faut être capable de pouvoir les énumérer et surtout, je dirais, rester stable sur ces sujets-là et pas découvrir des primes, découvrir finalement un salaire fixe qui serait plus élevé parce que c'est peut-être signe d'un manque de fiabilité en tous les cas, c'est quelque chose
de la part de la part du candidat, on, au milieu du process, on ne dit pas en fait je gagne plus, c'est ça?
En fait je gagne plus ou je veux beaucoup plus.
Je veux beaucoup plus.
Parce qu'on se parle aussi bien de rémunération que de prétention, les deux sujets sont à distinguer, mais voilà, il faut une certaine, je pense, constance sur ces sujets-là pour gagner en crédibilité.
C'est intéressant que tu parles de constance, Muse, parce que je fais référence à l'épisode avec le management de transition. On voyait bien une constance dans la relation entre LHH Recruitment Solutions et les managers de transition. Mais j'ai le sentiment aussi qu'avec les candidats, il y a aussi une espèce de constance dans la relation. Peut-être que le premier poste qui va arriver va pas être le bon, mais c'est aussi un pari sur l'avenir aussi.
Exactement, exactement. On est sur du long terme.
Sur du long terme,
on suit nos candidats. Peut-être que ce sera pas sur le premier coup de téléphone qu'on va pouvoir l'accompagner. On suit nos candidats et même après, une fois qu'ils ont intégré l'entreprise, on les suit toujours. Et cette relation de confiance, justement, elle se construit donc fait par la constance, par la transparence, par la disponibilité. Et c'est tout ça qu'on met voilà en lien avec nos candidats.
D'où l'intérêt de ne pas découvrir une prime au milieu du process qui conduirait à demander plus de rémunération. Je pense qu'on a bien compris l'intérêt de tout ça. Comment ça se passe quand on passe par un cabinet de recrutement? Raconte-moi, Anthony, les différents process.
Eh ben écoute, on va commencer par la relation client au départ, c'est-à-dire qu'on va faire un brief de poste.
Ouais.
On peut d'ailleurs aider très souvent nos clients à définir précisément ce qu'on appelle la job description.
Ouais.
Donc on a des services RH qui ont déjà avancé dessus ou pas. Après, une fois que effectivement on aura rentré notre mandat, si je puis dire, on va partir sur la partie vraiment opérationnelle.
Et donc là, c'est là où on est en face de candidats potentiellement.
C'est exactement ça. Donc là, on va avoir la partie sourcing, ensuite préqualification, entretien physique, passage de tests comportementaux, et puis après on va présenter les candidats à nos clients. Et l'idée étant de les accompagner jusqu'au cheminement final, c'est-à-dire une proposition potentielle.
Ouais. Sur la phase de sourcing, donc les candidats sont sourcés, j'imagine, sur LinkedIn et également dans vos fichiers, parce que j'imagine que vous conservez toute cette valeur au sein de votre cabinet. C'est les chasseurs de tête, c'est ça aussi.
Tout à fait. On a deux valeurs ajoutées. La première, c'est notre base de données.
Ouais.
Et la seconde, c'est vraiment la chasse de tête pure et dure, ce que j'appelle pure et dure, c'est-à-dire on va redescendre des organigrammes, réaliser des scénarios, appeler des candidats en direct. Après, toute la partie digitale, job board, LinkedIn, bien évidemment qu'on l'utilise, mais c'est pas l'essentiel de notre métier. Et je pense que c'est pas là que viennent nous chercher nos clients.
Ouais, c'est pour vraiment ces relations au long terme que vous tissez avec des candidats qui ne sont pas forcément candidats au moment où vous les rencontrez, mais qui peuvent un jour le devenir par le truchement de la vie qui peut conduire à des changements de poste. Je me souviens qu'à l'époque, il y avait un sujet qui m'énervait un peu. Alors, je vous le dis. Alors, je me confie complètement à vous sur ce podcast. Ça m'énervait quand je faisais un entretien avec un cabinet et que je ne connaissais pas l'entreprise qui était derrière. C'était un petit secret, comme ça. On me le disait pas tout de suite. Or, pour préparer un entretien, j'avais besoin de m'intéresser à l'entreprise, comprendre son fonctionnement, ses offres, pour me préparer au mieux. Donc, voilà. Quel conseil on peut donner aux candidats qui feraient un entretien avec vous sans connaître la société qui est derrière?
Alors, peut-être déjà en préambule, dire que c'est pas une coquetterie, que ce soit du côté du cabinet, du client. Il y a souvent des bonnes raisons qui le justifient.
Lesquelles, par exemple, qu'on comprenne bien?
Par exemple, un collaborateur qui n'a pas encore quitté l'entreprise et qu'il faut remplacer parce qu'on est sur un poste stratégique. Tout simplement aussi parce que la création d'un poste n'a pas non plus été évoquée en interne. En tous les cas, il y a des fois où il est impossible que sur le marché ça puisse se savoir. Et par ailleurs, aussi pour des questions de concurrence, pour pas que sur le marché il soit su que ce type de poste était recherché. Ça, c'est le premier point. Donc voilà, c'est pas, on ne garde pas des informations pour garder le pouvoir, on le fait parce qu'on est
obligé
de le faire.
C'est bien qu'on le dit aussi. C'est bien de le dire que c'est pas une coquetterie.
Exactement. Non, le cabinet a finalement les mêmes intérêts que le candidat sur le fait qu'il puisse correspondre ou pas à l'entreprise. L'objectif, c'est que le candidat puisse en quelque sorte se livrer, expliquer son projet, et le cabinet sera à même de pouvoir faire l'adéquation entre ce projet et celui de l'entreprise. Et par ailleurs, le candidat est aussi libre de poser des questions auxquelles on sera parfois en mesure de répondre. Je dis n'importe quoi, la taille de l'équipe, les enjeux, les perspectives, l'organisation et tout ça, même si on n'a pas le nom finalement de l'entreprise, ça permet quand même déjà de se projeter.
Anthony ?
Je suis en phase, dans un entretien, on va dire que de toute façon, il y a deux grandes phases. La première phase, c'est où le recruteur va un petit peu valider un certain nombre de compétences, que ce soit métier ou que ce soit soft skills, sur le candidat. Et après, la deuxième, c'est où l'entreprise va se vendre, entre guillemets. Donc, il n'y a que cette seconde partie qu'on n'aura pas. Donc, il y a toute une partie de l'entretien, de toute façon, qu'on peut faire et de manière approfondie.
Quelles sont les interactions qu'il peut y avoir entre le cabinet, les candidats, le client final? Vous orchestrez ça de quelle manière?
Je dirais que on fait en sorte de mettre de l'huile dans les rouages.
Ouais.
Donc concrètement, nous on va commencer par contacter d'abord le candidat. Ensuite, il y aura cette relation tripartite et qu'on va accompagner jusqu'au bout, comme je te disais tout à l'heure. Donc l'idée, c'est d'être présent à chaque moment, de la vie, on va dire, d'un recrutement, pour pouvoir accompagner les deux parties du mieux possible.
Ouais. Et vous présentez, j'imagine, plusieurs candidats au client final ou ça peut être qu'un seul?
Alors, en général, c'est plusieurs candidats. Ouais. Le client a envie de comparer. On est souvent sur des shortlists de 3-4 personnes. Néanmoins, sur certains métiers très pénuriques, on va présenter des candidats au fil de l'eau. D'accord. Donc, suffit que le client ait un coup de cœur au premier candidat et peut-être qu'il n'en rencontrera pas d'autres.
Et vous, vous avez une préconisation. Lorsque vous en présentez plusieurs, vous vous avancez sur une préco, muse, ou est-ce que vous laissez vraiment le client neutre, en neutralité, choisir son candidat favori?
On donne des feedbacks au client. C'est là-dessus qu'on est attendu. Quels sont les points de force qu'on a pu identifier? Quels sont peut-être nos points de doute ou en tous les cas, les choses à valider? En tous les cas, on n'envoie, j'ai envie de dire, que des bons candidats. On n'envoie pas une star et quelqu'un qui sera là pour le valoriser. On n'a pas d'intérêt à le faire dans la mesure où on est aussi dans une relation de confiance avec le client et il veut des candidats qui répondent à son cahier des charges, pas juste des CV. Est-ce qu'on a une préco spécifique? Parfois, oui, mais en tous les cas, c'est plus des éléments qu'on met en balance et après, à charge, évidemment, pour le client de pouvoir compléter cet avis-là.
On a parlé des tips pour les candidats. Je vous propose maintenant de passer du côté des recruteurs en leur donnant des conseils, des tips très concrets. Alors, quelques questions que j'ai envie de vous poser. On va inverser. Voilà, on est du côté du recruteur. Comment, en tant que recruteur, je dois préciser mon besoin de recrutement auprès de vous? Si je suis une société qui a un besoin de recrutement, est-ce qu'on doit aller jusque dans les soft skills nécessaires pour le poste ou est-ce que c'est vous qui faites ce chemin-là pour préciser les soft skills? Anthony?
C'est indispensable de préciser les soft skills. Aujourd'hui, sur l'ensemble des recrutements, entre guillemets, ratés, très souvent, c'est dû justement à une inadéquation de valeurs, de comportements et donc de soft skills.
Pas les compétences, du coup. Les compétences, c'est moins prégnant comme raison d'échec de recrutement.
Tout à fait. Moins les compétences, parce que c'est plus facile aussi à valider en entretien.
Objectivé.
Donc oui, c'est à définir dès le départ. Et après, comme je t'expliquais précédemment, soit on a des entreprises avec des services RH qui ont déjà fait la démarche, et donc nous, on va valider ces soft skills, peut-être les compléter. Soit on a des entreprises qui ont besoin vraiment d'être accompagnées sur cette définition, ce qu'on peut faire également.
Comment vous évaluez les compétences comportementales de vos candidats? On parlait des soft skills tout à l'heure, mais comment vous les évaluez précisément?
On a plusieurs outils. Le premier, c'est évidemment celui de l'interview. Bien préparer justement ces entretiens aussi côté recruteur hein, en disant, OK, qu'est-ce que j'ai besoin d'aller valider? Qu'est-ce que je vais aller chercher là où je peux aller chercher le candidat, peut-être en le projetant sur des situations passées ou futures. Ça, après, c'est à chaque recruteur d'avoir, je dirais, en quelque sorte, sa méthode. Mais en tous les cas, d'arriver préparé et se dire aussi qu'on sera pas en mesure d'évaluer 15 soft skills. C'est pas possible. Ouais. On en choisit 2-3 et on va les chercher, je dirais, au fond. Ça, c'est le premier outil. Le deuxième, au cabinet, on en a un spécifique. C'est des tests de personnalité qui permettent aussi de mettre en avant certains soft skills. Et parfois, c'est complété aussi par des outils internes directement chez les clients. Et tout ça a complété, encore une fois, peut-être troisième outil, c'est à la confrontation. Un candidat voit plusieurs personnes au cours de son process et nourrir les retours de l'un et de l'autre permet peut-être d'avoir une vision un peu plus globale et complète justement du candidat rencontré.
Oui, Anthony.
Sur ce point-là, on peut aussi, si nécessaire, compléter par un assessment center complet. Donc, je pense que ça a fait l'objet de notre podcast.
Absolument,
donc
je vous renvoie vers le podcast
mais
sur l'assessment center.
Aussi,
Tu parlais, Muse, des entretiens de personnalité, des tests de comportement. Est-ce que tu as déjà fait face à des candidats qui rejetaient complètement en bloc les enseignements de ces tests et qui, du coup, rend peut-être un peu complexe la discussion avec lui ou avec elle, évidemment?
Ça arrive surtout à la lecture brute des résultats, parce que un résultat, quand on le reçoit sans l'interpréter, ça peut être blanc ou noir. J'ai 10 sur 10 là-dessus, donc j'ai une très bonne capacité d'écoute et j'ai 3 sur 10 sur la communication, je ne sais pas m'exprimer. Non, en fait, c'est face au test, il faut avoir cette partie interprétation et c'est là qu'on accompagne le candidat. C'est absolument essentiel de débriefer ces tests de personnalité pour pouvoir les illustrer. Et une fois qu'on a fait ce travail-là avec le candidat, ça se passe toujours très bien.
Ça, c'est votre rôle de cabinet de recrutement. Ce n'est pas le rôle de votre donneur d'ordre, de votre client.
Non, évidemment.
C'est votre rôle.
Tout à fait.
Comment évaluer, Anthony, la motivation intrinsèque d'un candidat en tant que recruteur?
Alors, je dirais qu'il y a plein de possibilités.
Ouais, tu parlais de ponctualité tout à l'heure, mais j'imagine que c'est pas la seule manière de l'évaluer.
Non, c'est pas la seule. La première, ça peut être déjà les questions, la curiosité que le candidat va te poser. Ensuite, si effectivement il te dit qu'il est intéressé, sa disponibilité pour te rencontrer en entretien, est-ce qu'il va tenir ses engagements, c'est-à-dire est-ce que l'entretien va être décalé ou pas, à l'issue de cet entretien, est-ce qu'il va t'envoyer un mail de remerciement, est-ce que pendant le processus de recrutement, si on avance et qu'on lui demande des références professionnelles, il nous les communique rapidement ou pas. Tout ça, c'est des petits éléments qui nous laissent présager de la motivation ou pas d'un candidat.
Ouais, Muse.
Complètement en phase, et même c'est comme si un process de recrutement se fait pas instantanément, mais se fait dans la durée. Et c'est justement peut-être l'endurance du candidat dans le cadre de ce process qui permet aussi d'avoir un indice supplémentaire sur sa motivation.
Ouais. Puis aussi le connaître, comme tu le dis, hein, c'est un long terme. D'ailleurs, ça m'interroge, est-ce que vous êtes recruteur, mais également aussi des espèces de coach de carrière? Parce que moi, j'ai en tête un certain nombre d'échanges que j'ai pu avoir avec des cabinets comme le vôtre. Et j'avais vraiment le sentiment parfois que c'était, en l'occurrence, une vraie coach, dans ma mémoire, ça remonte à quelques années, mais c'était une vraie coach de carrière qui m'orientait. C'est aussi un rôle que vous avez le sentiment de tenir. Je vois Mus qui dit oui.
Oui, en tous les cas, on essaye très clairement parce qu'encore une fois, ces candidats, on les suit au long terme, on en rencontre beaucoup, on échange avec beaucoup de clients par ailleurs. Si on peut être facilitateur face à ces situations de recherche d'emploi, évidemment qu'on l'est, parce qu'en effet, certains candidats sont éloignés du marché de l'emploi, en tous les cas, des process de recrutement depuis plusieurs années. On est là pour faciliter, peut-être leur permettre de se mettre un maximum en avant sans traverser la réalité, évidemment. Mais il y a évidemment cette d'accompagnement.
Ouais, vous allez jusque-là, Anthony, sur du conseil pour des carrières, peut-être aussi pour changer de carrière éventuellement. Si on peut se confier en fait à vous.
Tout à fait. Alors, je dirais qu'on est coach de moments de vie, ça c'est une certitude, ouais, avec l'ensemble de nos candidats. Coach de carrière, ça va être avec des candidats avec lesquels on a vraiment développé une relation de confiance.
Oui.
Plus on va avancer dans le métier, effectivement, plus on aura ce type de candidat.
Ouais.
Donc voilà, ça va dépendre des personnes, du coup de cœur. Mais en tout cas, on est à minima sur un coach de moment de vie.
Ouais. Tu parles de coup de cœur et c'est intéressant que tu emploies le champ lexical de l'amour, parce que dans une relation entre un recruteur et un candidat, il y a une phase de séduction et en même temps une phase de jugement, qui peut être quelque part un peu un grand écart. Comment on fait pour être dans le jugement tout en étant dans la séduction parce qu'on veut attirer les bons? C'est pas forcément simple, non, Muse?
C'est un jeu d'équilibriste. Ouais. C'est en effet pas forcément évident à trouver. Je pense qu'il y a, je dirais, un temps pour tout. Il y a un temps pour s'évaluer, pour faire connaissance, finalement, s'appréhender mutuellement et nous concernant, évaluer le candidat. Ça, c'est une phase qui est essentielle. Et ensuite, il y a évidemment cette phase de séduction pour pouvoir garder le candidat à bord si on souhaite évidemment pouvoir le présenter pour un projet et aussi pour pouvoir lui donner envie de rejoindre ce projet-là. En fait, en quelque sorte, tout est une question de timing pendant le moment de la rencontre et de l'échange.
Ouais. J'ai envie de vous interroger sur le feedback qu'on fait aux candidats, parce que c'est vrai que c'est un moment important. On est nombreux à pas aimer le recevoir des mails automatiques qui nous disent qu'on n'a pas été reçu. Ça, c'est pas vos pratiques du tout, j'imagine. Comment vous faites des feedbacks aux candidats, que ce soit positif ou négatif, Anthony?
Alors, il faut distinguer le feedback d'une personne qu'on a reçue et le feedback d'une personne qu'on n'a pas reçue, puisqu'effectivement, la personne qu'on n'a pas reçue peut d'abord commencer par un mail, et si cette personne demande des approfondissements, à ce moment-là, on le contacte et on lui donne les explications.
Donc, on peut toujours demander les approfondissements, même si on reçoit un mail, pour avoir des compléments sur la raison, c'est ça?
Je pense, et effectivement, je trouve que c'est même une excellente idée. Et nous, ouais, on se fait fort chez Bannock & Clark de recontacter tous les candidats qui demandent des explications sur les raisons de leur non-sélection, par exemple, ou où est-ce qu'on est dans le processus de recrutement, etc.
Okay.
Après, sur les gens qu'on a reçus, le feedback, pour moi, il est indispensable. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, il doit toujours être fait avec bienveillance. Donc, le feedback, l'idée à la fin de l'entretien, c'est déjà de commencer par les points forts, les points sur lesquels vraiment on va pouvoir appuyer la candidature. Mais après aussi, peut-être les axes d'amélioration pour aussi aider le candidat lors de sa rencontre avec l'entreprise. Mais voilà, le feedback, c'est le moment peut-être le plus important, clairement, dans l'entretien.
Ouais. Muse?
C'est évidemment absolument essentiel qu'il soit, enfin, s'il est positif, évidemment, et s'il est négatif, justement, pour pouvoir en quelque sorte rebondir et se servir de ces enseignements-là pour, le cas échéant, d'autres process à l'avenir.
Mais j'aimerais qu'on parle de discrimination à l'embauche. C'est un sujet qui est scruté particulièrement par des associations. Il y a des engagements qui sont pris par des recruteurs, mais qui peuvent parfois aussi peut-être demander des recrutements qui sont perçus comme discriminants. Comment vous gérez, quelle est votre position sur ces sujets de discrimination à l'embauche?
Notre position, elle est très claire. Elle intervient à plusieurs moments, évidemment. Nous, à l'entrée et tout au long, finalement, de notre expérience, on est formés régulièrement. En tant que membre du groupe ADECO, on a ces formations qui sont régulières. Donc, on sait comment faire face à ces sujets de discrimination. Et par ailleurs, c'est une vraie conviction qu'on porte, je pense, tous individuellement. On n'est pas là pour évaluer des personnes. On est là pour évaluer des compétences. Finalement, les sujets de genre ou d'orientation sexuelle n'interviennent jamais dans ces process et dans nos évaluations.
Ouais. Tu vois une évolution, toi, Anthony, sur des pratiques qui pourraient être discriminatoires que vous combattez en parlant à vos clients, mais est-ce que tu as vu une évolution ces 8 dernières années ?
Je pense que oui, il y a eu une évolution, ne serait-ce que dans la prise de conscience en fait, des différents décideurs. Et on le voit aussi maintenant, il y a de plus en plus d'entreprises qui se regroupent pour travailler sur l'inclusion au sein de leur entreprise, donc que ce soit le sujet homme-femme, mais également origine sociale, etc., etc. Donc oui, il y a une évolution, une prise de conscience.
D'accord, très clairement. Merci beaucoup. Je vous propose de passer à la troisième partie de ce podcast, les « do » et les « don't ». Un petit questionnaire pour terminer. Je me suis lancé sur des petites questions. Qu'est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire ou qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez me répondre. En tant que candidat, d'abord, ne pas ramener de CV au format papier parce que j'ai un souci d'environnement. Est-ce que c'est faut le faire ou pas le faire? Anthony?
Je pense que le CV papier aujourd'hui ne présente plus aucun intérêt.
Pas besoin de le ramener du coup.
Voilà, pas besoin de le ramener, tout à fait.
Ok. Et si on dit que c'est pour l'environnement, c'est encore mieux.
Effectivement.
Très bien. Donner des défauts qui sont en fait des super qualités, genre mon défaut c'est exigeant, c'est jusque boutiste. Ça faut pas le faire.
C'est caricatural.
c'est fait exprès.
Non, évidemment. Non, mais c'est encore une fois, c'est la relation de confiance et la transparence, c'est plutôt non. On peut se trouver tous, je crois, des points améliorés.
Mais c'est très difficile de trouver des défauts à donner en entretien. C'est très très difficile quand même.
C'est vrai. Après, très honnêtement, sur nos niveaux de positionnement, ça se fait peu. C'est-à-dire qu'on va pas vous dire aux candidats quels sont vos trois défauts. Non, pas réellement.
Bon,
on utilise plutôt la méthode STAR comme expliquait Muse.
Très bien. Aborder le sujet de l'argent très rapidement en tant que candidat, c'est bien ou pas? On en a un peu parlé tout à l'heure, mais on peut synthétiser ce qu'on s'est dit tout à l'heure, Muse.
Ne pas commencer par ça.
Pas commencer par ça.
Certes, en parler, c'est absolument nécessaire.
Ouais, mais plutôt attendre peut-être que ce soit le recruteur qui en parle d'abord.
Ou si ça n'arrive pas en fin d'entretien, ouais, l'évoquer spontanément.
Ouais. Anthony, t'es d'accord?
En phase à 200%.
Ah, vous êtes une belle équipe tous les deux. Est-ce qu'il faut ou pas aller au-delà de la question posée par un recruteur? Alors moi, c'est une histoire très personnelle. Une fois, on m'a reproché de faire une envolée lyrique sur une réponse et d'aller beaucoup trop loin et de faire des digressions. Je voulais bien me vendre, mais fallait le faire ou pas le faire?
Effectivement, je pense que le point, il est là. C'est-à-dire qu'il faut rester synthétique. Si la question est ouverte, on peut aller un petit peu au-delà, mais il faut savoir s'arrêter.
Il faut savoir s'arrêter. En tant que recruteur maintenant, je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce qu'il faut faire ou ne pas faire? Demander à une candidate si elle veut des enfants. Moi, je connais un peu la réponse.
Absolument pas. Interdit.
Oui. Interdit.
Et un candidat non plus, d'ailleurs.
Un candidat non plus. Ouais, tu fais bien de le préciser. Est-ce qu'il y a des choses privées sur lesquelles on peut aller quand même, Anthony?
Bien évidemment, je pense à quelque chose qui est très bateau, mais les loisirs, c'est quelque chose de personnel et ça pose aucun problème d'en parler.
Ouais.
Donc, il faut juste pas aller sur le terrain de la discrimination. C'est aussi simple que ça.
Très bien. Est-ce qu'il faut ou pas demander au candidat ou à la candidate combien elle gagne ou il gagne?
Oui.
Oui. On peut demander au candidat combien il gagne aujourd'hui?
Oui.
Et non pas demander plutôt ses prétentions?
C'est deux sujets qui sont différents.
D'accord. Qu'est-ce que ça donne comme information d'avoir les deux en parallèle?
D'avoir le salaire actuel permet de le positionner sur le marché. Un titre de poste et un nombre d'années d'expérience permet pas systématiquement de tomber pile sur la partie rémunération et ensuite sur la partie prétention. Ça permet d'avoir l'ambition du candidat et de comprendre si c'est l'un de ses moteurs, si oui, à quelle hauteur finalement, et pouvoir l'accompagner au mieux sur ce sujet-là.
D'accord. Dernière question, tester le candidat en le mettant mal à l'aise. Est-ce qu'il faut le faire ou non? Ça peut révéler des choses, mais ça peut être aussi perçu comme une mauvaise expérience pour le candidat, Anthony.
Effectivement, je déconseille à 100%. C'est-à-dire que je pense que ce n'est pas du tout une bonne méthodologie. Aujourd'hui, L'idée, c'est qu'on ait un échange constructif quand on rencontre des candidats, donc que ce soit nous ou nos clients. Donc, je ne suis pas du tout en phase pour aller sur ce type d'entretien.
Mmh. Lorsque vous faites des tests, Muse, enfin le fait que vous fassiez des tests, c'est communiqué à l'avance pour pas que ça soit une surprise.
Évidemment, on dit aux candidats de se mettre dans un lieu calme, de prévoir le temps nécessaire pour le passage du test. L'objectif n'est pas du tout de le mettre en difficulté, mais justement qu'il puisse se révéler au mieux.
Très bien. Merci à tous les deux. On va arriver sur la fin de ce podcast. Comment on peut conclure cette édition, cet épisode, Anthony ?
Simplement de leur dire de rester eux-mêmes. C'est-à-dire qu'un entretien et un poste potentiel, c'est une relation gagnant-gagnant. Il n'y a personne qui doit se survendre. Donc, l'idée, c'est d'y aller avec son parcours, avec ses convictions, pour voir si effectivement, c'est quelque chose qui peut réellement correspondre.
Restez comme vous êtes.
Exactement.
Muse, un petit mot de conclusion ?
On est à la disposition aussi bien des candidats que des recruteurs pour voilà, favoriser cet accompagnement, favoriser la rencontre et on serait ravis voilà, de poursuivre ces échanges avec chacun de ses interlocuteurs.
Merci beaucoup. Muse, d'abord, merci pour tes lumières, tes tips sur ce micro. Muse Mortagne, je rappelle que tu es consultante au sein du bureau de Paris depuis 3 ans chez LHH Recruitment Solutions. Et merci beaucoup, Anthony Maldera, directeur exécutif région, d'être intervenu à ce micro pour nous donner tes lumières sur le sujet avec une mise en perspective de 9 ans d'expérience chez LHH Recruitment Solutions sur ces sujets. C'était passionnant.
Merci à toi, ce fut un plaisir.
Plaisir partagé. Et quant à nous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Conversation RH. Et si vous voulez être tenu au courant des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner sur votre application de podcast préférée. On se retrouve très vite sur Conversation RH, le podcast d'échanges éclairés entre professionnels RH. À très bientôt.